T'as pas changé. On sait jamais si tu plaisantes ou pas.
Dis-toi que je plaisante toujours. Au bord du précipice, seul le rire nous empêche de sauter. C'est un proverbe chinois que je viens d'inventer.
Les filles, vous m'entendez?
Please, I need help.
Oh, je déconne.
Allez.
Una are to vous.
Hey, boys! Come save me!
We're gonna be fine.
Say it again.
Una are to vous.
We're gonna be fine.
Now, go wait.
Allez, action!
Help me!
Action, pourquoi faire?
Un huis clos à ciel ouvert, presque un théâtre dont la mer serait le quatrième mur. Mais surtout un film, le 20e, d'une longue histoire, la sienne et la nôtre aussi. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à toutes, à tous et à Marseille.
Une villa calée dans une calanque, celle de Méjean près de Marseille, et dans laquelle vont se retrouver les trois enfants d'un père vieillissant. Bonjour Robert Guédiguian.
Bonjour.
Il y a tout ce que vous aimez dans ce film La Villa. Marseille, votre troupe d'acteurs et les lignes forces de votre pensée, solidarité, utopie, espoir, mais aussi la nostalgie du temps qui passe. Ascaride, Daroussin, Mélan, Boudet, De Moustier, Stévenin Junior, tous à l'affiche de La Villa dont la sortie Robert Guédiguian est prévue mercredi prochain. Cette nouvelle semaine de cinéma nous donne des nouvelles du monde. Un western en Bulgarie, une mère courage en Tchéquie, des ouvriers en Chine, des migrants en Hongrie, une étudiante à Saint-Denis et en Norvège. Le retour d'un cinéaste très talentueux, Joachim Trier. Nous l'avons rencontré à propos de Thelma, son nouveau film, un thriller super naturel. Robert Guédiguian, vous êtes prêt?
Oui.
C'est parti.
J'ai une drôle d'impression, Suzanne. Qu'est-ce qui a changé comme ça? Oui, nous, ça c'est sûr. Non, mais ici, tous les cabanons sont fermés. Pourquoi c'est désert?
Tu demandes pourquoi c'est désert?
Mais oui, avant il y avait du monde partout, ça courait, ça braillait dans tous les sens. Qu'est-ce qui s'est passé?
L'argent, il s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Tu sais, ici, avant c'était un trésor, un vrai trésor. Ton père, lui, Maurice, il a toujours su. Mais les autres connards, là, qui ont tous vendu les uns après les autres, ils ont réussi à te le dégoûter complètement. Il ne pouvait plus, ce pauvre Maurice. Parce que lui, il avait une vision. Hein. On cherche tous à avoir une vision. Eh bien, c'est pas la peine, crois-moi.
Qu'est-ce qui a changé, demande Angèle Ariane Ascaride. Elle est devenue comédienne et revient des années plus tard dans cette villa où elle retrouve ses deux grands frères, Joseph, c'est Daroussin, et Armand, c'est Gérard Mélan, à l'occasion de la maladie de leur père, un AVC qui l'a laissé apathique. Cette villa, c'est presque un titre bourgeois, Robert Guédiguian, là j'ai dit un gros mot.
C'est vrai.
C'est vrai?
Oui, c'est vrai, je n'aime pas trop les bourgeois, non. C'est exact.
Mais villa est un terme bourgeois. Oui. Alors qu'ils l'ont obtenu, cette villa, à la force du poignet.
Oui, et puis ils l'ont construit tous ensemble, en fait, avec beaucoup d'efforts. J'imagine en riant, buvant des verres, etc., dans un sentiment de fête, en fait. Et c'était un peu la villa. Cette villa, c'était un peu une... Presque, elle est antinomique de la villa bourgeoise, parce que c'est une villa ouverte sur tous, pour tous. C'est une maison du peuple, cette villa, hein, qu'il voulait faire, voilà.
Avec c'est un mot latin aussi, c'est un mot méditerranéen.
Oui, aussi, bien sûr, oui, ça désigne quand aussi, quand même, une voilà. Maison ouverte sur la mer, avec un petit peu de rapport à la nature, etc.
Une villa au pied de laquelle a été conçu un restaurant ouvrier, que continue à tenir Armand. Un monde de fraternité, et c'est l'argent qui a tout fait changer.
Oui, l'argent de manière générale, dit Jacques Boudet, là, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, d'une façon tout à fait, en valeur absolue. Moi, je crois que dans les 20-30 années qui viennent de passer, je crois que, le capitalisme a gagné. Voilà. Mais a gagné sur le terrain des idées. C'est-à-dire que tout le monde ne pense qu'à gagner un petit peu d'argent, à être propriétaire. D'ailleurs, prenez précisément cet exemple-là. Les gens, il y a 30 ou 40 ans, ne songeaient pas à devenir propriétaires de leur maison. Ça ne les intéressait pas plus que ça. Ils étaient locataires toute leur vie. Nos parents, nos grands-parents étaient locataires toute leur vie. Il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, il faut absolument avoir sa propre maison. Oui. Avec le crédit qui va avec, d'ailleurs, parfois. Hein, je veux dire, avec le crédit qu'on n'aurait plus à payer ensuite. Voilà. Et si on ne paie plus un crédit, on ne fait peut-être pas 3 jours de grève, parce qu'il faut payer le crédit, etc., etc., etc. Je veux dire, même les modes de consommation, je veux dire, ont changé. C'est-à-dire que la bourgeoisie, je pense, a imposé sa façon de voir le monde, c'est-à-dire cette façon extrêmement individualiste, liée au profit, et au calcul égoïste, comme disait l'autre, a imposé ça à tout le monde. La bataille idéologique, en fait, la bataille des idées, me semble perdue, en fait.
L'argent, d'ailleurs, métaphoriquement, qu'on voit à travers cette vision d'un yacht qui passe devant cette calanque, et on voit dans leurs yeux, ils se disent oh, « qu'est-ce que ça rapporterait, voilà, toute cette calanque ?»
C'est comme une bande dessinée, on voit des dollars dans leurs yeux, comme dans les dessins de Tex Avery. La vision du monde, on pourrait la résumer comme ça, cette vision du monde nouvelle, un petit peu cette vision bourgeoise. Effectivement, tout se transforme en or, doit se transformer en or. On ne peut pas laisser une chose dans l'état, non, il faut que ça devienne rentable.
Cette famille se retrouve comme ses acteurs, d'ailleurs il y a un extrait de Kilosa avec les mêmes 30 ans plus tôt. Votre film, c'est un peu « Que sont-ils devenus ?» mais c'est surtout « Nous aussi ». Que sommes-nous devenus ?
Oui, bien sûr, mais ça me fait plaisir que des gens qui voient mes films depuis quelques temps, depuis 30 ans aussi pour certains d'entre eux,
oui,
les plus fidèles et les plus anciens,
les plus vieux,
les plus vieux pour tout dire. Bon, effectivement, ça leur envoie, je pense, des questions qui sont exactement les miennes, qui sont celles de ma génération, qui sont celles des trois personnages qui ont mon âge dans le film et qui sont toujours, comme d'habitude, qui sont effectivement ces deux garçons et cette fille.
Ouais. Mais vous, qu'êtes-vous devenu ? Qu'est-ce qui a pu changer en vous depuis 30 ans ?
Ce qui a changé, c'est mes formes de combat et mes formes d'engagement et mes espaces d'engagement. En fait, je ne suis pas engagé dans les mêmes lieux et pas forcément sur les mêmes sujets. Ou sur les mêmes sujets, mais sous d'autres angles ou sous d'autres axes. Voilà. Et je pense qu'effectivement, il faut conserver ça. Si on ne conserve pas l'idée d'un combat qui dépasse notre propre vie, en fait, d'un combat plus universel, à ce moment-là, on n'entre pas dans l'histoire, ce qui est très triste. Moi, je ne veux pas mourir. Voilà.
Cette révolte que vous aviez...
Je ne veux pas mourir, ça veut dire qu'il faut que je fasse une œuvre qui, après ma mort biologique, se poursuive. Voilà. Ça, je ne serais pas tout à fait mort. Mais je serais un peu mort, mais pas tout à fait.
Cette révolte que vous avez insufflée quand vous étiez au PC, vous l'avez retranscrite ensuite au cinéma.
Oui, bien sûr. Pour moi, le cinéma, de ce point de vue, est une chance. J'aurais trouvé autre chose. Mais il me fallait un os à ranger. Il fallait que je trouve un endroit où m'investir. Bon, où investir, en tout cas, je veux dire, ces idées-là, c'est mon expression, tout simplement. En toute humilité, d'ailleurs. Mais si je n'avais pas eu le cinéma, je ne sais pas, je serais probablement parti dans des associations ou... Je sais pas, des choses peut-être humanitaires, des choses internationales peut-être, parce que j'ai toujours aimé voyager beaucoup. Bon, le cinéma est passé par là, absolument par hasard, j'ai sauté dessus.
Mais le thème de la retrouvaille, des retrouvailles, c'est permanent. Parce que dans Kilosa, oui, ils se retrouvent déjà.
Oui.
Dix ans, ils ont déjà 10 ans derrière eux. Enfin, oui, donc c'est les retrouvailles permanentes, quoi.
C'est vrai, parce que ça me fait un peu marrer, mais parce que, on m'a dit plusieurs fois, le film était un peu testamentaire. Je dis oui, mais je n'ai fait que des films testamentaires.
Je crois, oui.
À chaque fois, je renais de mes cendres, je refais un nouveau testament.
Vous réécrivez le testament chaque fois.
Voilà. Ouais. On pourrait dire ça. Ouais. Comme je fais un petit peu le point, en fait, sur où on en est de nos idées, d'ailleurs, et de nos corps, et de nos décors, comment tout ça change. Bon, évidemment que dans tous les films, il y a un aspect dernier film. Voilà. Constat, dernier film.
Cette famille se retrouve autour d'un repas.
Bon, ça fait un bail.
Comment tu vas ? Super.
Alors, c'est la grande réunion de famille ?
Ouais. Tiens, assieds-toi.
Merci. Yvan, je te présente Bérangère.
Bonsoir.
Bonsoir.
Qu'est-ce que tu bois ?
Juste un verre d'eau, j'ai déjà bu chez les parents. Je fais attention avec la moto.
Armand, les jeunes aujourd'hui sont sérieux. Moi, je les admire.
Merci.
C'est Yvan qui suit notre père depuis qu'il y a eu l'accident.
Et d'ailleurs, tu veux pas une infirmière, au moins pour la toilette ?
Non, c'est gentil, je m'en occupe. Je crois que ça ne plairait pas qu'une inconnue le touche. Là.
On sait pas du tout ce qui se passe dans sa tête, Armand.
Moi, je crois qu'il comprend tout. Mais non, enfin...
Bah, moi, hier, je lui ai parlé pendant au moins une demi-heure.
Il t'a répondu ?
Non, je sais pas, mais à un moment, il s'est retourné vers moi.
Ah.
Il y a un espoir de guérison ?
Non. Les lésions sont irréversibles. Alors, le corps fonctionne tant qu'on l'alimente. Ça peut durer comme ça plusieurs années. Ariel Sharon, il est resté 8 ans dans cet état, je crois.
Oui, mais lui, il était juif.
Et alors ?
Bah, ils sont plus coriaces. Bah quoi, qu'est-ce que j'ai dit ? C'est pas antisémite de dire que les juifs sont coriaces. Hein. Coriace, c'est une qualité.
T'as pas changé. On sait jamais si tu plaisantes ou pas.
Dis-toi que je plaisante toujours. Au bord du précipice, seul le rire nous empêche de sauter. C'est un proverbe chinois. que je viens d'inventer.
Daroussin, personnage cynique, et sa petite amie Anaïs de Moustier, son étudiante qui devait l'admirer mais qui ne l'admire plus beaucoup. Daroussin, c'est pas vous, ce type qui s'éloignait de ses rêves?
Un peu, parce que tous les personnages, enfin ces trois-là, les trois, comme je dis, qui ont mon âge dans le film, non, mais après quand on écrit, c'est des choses que parfois, qu'on fait dire à un personnage, qu'on a pensé 5 minutes, une pensée qu'on a eue et qu'on a oubliée, voilà, qu'on n'a pas, après on réfléchit avant de parler, donc on n'a pas dit cette pensée, mais elle peut réapparaître chez un personnage dans une fiction. Donc je dirais que tout ce que disent ces trois-là, m'a traversé l'esprit à un moment ou à un autre. Voilà.
Ça peut être des pensées refoulées. Ça peut être des pensées refoulées par honte, aussi, ou par, parce qu'on n'ose pas le dire.
Voilà. Et que du coup, dans un film, par contre,
ça, c'est formidable,
si ça colle avec un personnage, clac, on y va. Et c'est vrai que, enfin, même par exemple, cette invention de proverbe, c'est une chose que je fais très régulièrement.
C'est vrai?
Toujours. Dans les débats, je fais un débat, par exemple, ce soir, je vais faire un débat avec Saint-Provence là-dessus, je vais peut-être inventer un proverbe. Je le dis pas d'ailleurs, je dis les gens croient vraiment que c'est un proverbe.
Vous n'êtes pas le seul à faire ça, je crois que Jean-Pierre Melville faisait ça aussi.
Oui, c'est vrai. Les haïkus prétendument qui inaugurent les films de Melville sont des fous.
Voilà.
Alors, ce qui va les réveiller, cette famille, enfin réveiller leur conscience, ce sont trois enfants, tiens, une fille et deux garçons. Trois enfants réfugiés, vous tenez à ce terme-là, arrivés de la mer et qu'ils se cachent et qu'ils vont recueillir. Et justement, l'armée questionne cette famille sur ont-ils rencontré des réfugiés.
Bonsoir, messieurs, dames.
Bonsoir.
On a retrouvé les restes d'un bateau, probablement des migrants. On a cherché en mer, sur les rochers, mais on n'a trouvé personne pour l'instant. Vous n'avez rien vu par ici?
Non.
Vous croyez qu'ils se sont noyés?
On ne sait pas, on ne sait rien. Il y a peut-être des survivants.
On n'a vu passer personne ici.
C'est atroce. Et en plus, c'est de notre faute.
Pardon?
Non, rien.
Bon, si vous remarquez quelque chose, vous nous appelez ce numéro. Faites attention, hein, ils peuvent être dangereux.
Dangereux?
Ah bien sûr, madame. Des terroristes peuvent se cacher parmi eux, on ne sait jamais.
Vous croyez que les terroristes sont assez cons pour venir en bateau au risque de se noyer?
Évitez de vous foutre de l'armée. Non, parce que nous, on est là pour que vous puissiez dormir tranquille, bien au chaud, comme des bons bourgeois pendant que nous, on crapahute.
C'est votre métier, vous l'avez choisi, vous êtes payé pour ça.
Ouais, juste pour acheter des cigarettes. Allez, continuer à boire et à manger. Soyez tranquille, nous sommes là.
Il nous a traité de bourgeois ou j'ai rêvé?
Non, tu n'as pas rêvé.
Oui, je le disais, Robert Guédiguian, bourgeois, le gros mot. Vous dites, si j'exagérais, je dirais que je ne pourrais pas faire un film aujourd'hui sans parler des réfugiés, un devoir social et politique.
Oui. Si j'exagère donc un peu, je le dis, donc je l'affirme. Je ne vois pas comment, effectivement, on peut intervenir, dire quelque chose, parler quoi, d'autre chose que de ces... des chiffres sont tombés, là, on parle de 40 000 morts. Enfin, c'est pas exactement, d'ailleurs. On ne saura jamais exactement, mais c'est autour de 40 000 morts, quand même, je veux dire, dans la Méditerranée, ces dernières années. Comment ne pas parler de ça?
Vous, en tant que Marseillais depuis quelques années déjà, vous en avez vécu des vagues d'immigration?
Mais moi, je suis réfugié.
Mais oui.
Enfin, je suis un fils de réfugié.
Oui.
Petit-fils de réfugié, moi.
Donc, c'est une nouvelle migration?
Bien sûr. Mais le monde entier est fait de ça. C'est-à-dire, il y a toujours eu des réfugiés. Le monde sans réfugiés n'a jamais existé. Bon. Forcément, par définition, l'humanité bouge et va là où la terre est plus fertile, où la paix règne, où effectivement le climat est meilleur. Donc, toutes les raisons sont bonnes. D'ailleurs, c'est pour ça que je dis réfugiés. Parce que
Et pas migrants,
parce que, d'abord, réfugiés, l'idée me semble plus belle et plus poétique. Parce que c'est-à-dire, réfugiés, vous allez chercher refuge. Je cherche un refuge, je cherche donc une famille, un foyer, un endroit pour avoir chaud, pour manger un bol de soupe, enfin, je sais pas, le refuge, comme un refuge en montagne, quoi. Mmh. Il faut que je me pose quelque part pour passer la nuit, puis après on verra si je peux continuer le chemin ou pas, mais dans tous les cas, il faut que je reprenne des forces. C'est pour ça que j'aime bien réfugier, et puis réfugier, pour moi, ça mélange effectivement tous les types d'immigration. C'est-à-dire, je supporte plus toutes les distinctions. On va pas quand même ergoter pendant des heures sur savoir s'il y a la guerre ou pas la guerre, d'où vient ce type-là, s'il vient parce qu'il a... Alors là, on peut pas le prendre parce qu'il crève de faim, en fait. Voilà. Mais il a pas été blessé. Alors, t'as été blessé, oui, lui, on peut le prendre parce qu'il a été blessé. Donc, bon, d'accord. Alors, il y a effectivement les exilés politiques. Alors, ça, c'est un droit sacré. Mais finalement, l'autre qui crève de faim, c'est pas un droit sacré. On peut pas lui filer à bouffer. On est quand même dans un pays aujourd'hui où, je veux dire, les derniers mots qui ont été dit, c'est 25 000, accueillir 25 000 personnes en France. Même les Allemands, de ce point de vue, la droite allemande, le CSU allemand, propose 250 000 par an. C'est hallucinant que je dis la France, on est honteux. Enfin, j'ai honte pour ce pays, quoi, voilà. Donc je suis obligé de parler de ça dans tout ce que je fais, dans toute intervention comme là, et à l'intérieur d'un film aussi, essayer de faire une parabole avec ça, quand même, parce que je crois que c'est notre avenir. En tout cas, dans le film, de manière parabolique, les trois petits qui arrivent, et qui sont en miroir comme les trois frères et sœurs plus âgés, vont les remettre en forme aussi, ils vont tirer du bonheur, en fait, de l'accueil de ces réfugiés, ces trois-là.
C'est l'avenir,
oui,
pour eux. Ils viennent d'où, ces trois enfants ?
Oh, si on connaît un peu les langues orientales, parce qu'en plus, les quelques mots, puisqu'ils ne parlent pas, hein, bon, ça c'était évidemment une volonté, les quelques mots qu'elle dit qu'il y avait sur la tombe de son petit frère, c'est du kurde.
Et eux-mêmes, ils sont kurdes, pas les acteurs, les trois acteurs ?
Non. C'est du kurde, mais c'est du kurde d'Irak, pour tout dire, parce que le kurde se décompose en plusieurs langues, enfin bon, n'entrons pas dans ce détail-là.
On voit aussi la police, de façon militaire, enfin, de façon très, très présente, comme si vous aviez quand même la volonté de ne pas faire du sujet un alibi, mais de le traiter réellement avec, par exemple, ce dialogue qu'on vient d'entendre, où, au fond, c'est toute la difficulté de la gauche française à assumer la répression et l'accueil.
Bien sûr, bien sûr. C'est à la fois, comment dire, c'est à la fois très désagréable. Là, je voyage tous les jours pour je vais en province, etc. D'aller sans arrêt dans des gares et dans des aéroports avec des militaires de 18 ans qui ont le doigt sur la gâchette, c'est pas forcément extrêmement agréable, que je préférerais qu'ils soient pas là. Maintenant, je sais bien que ça sert à quelque chose. Même le récent attentat à Marseille, si le type s'était pas fait plomber par un militaire, il aurait peut-être tué 2-3 personnes en plus. Donc, je ne nie pas. Mais je suis obligé de souligner que c'est pas réjouissant et que ça fait apparaître aussi des tas de complexités. C'est même pas un hasard, bien sûr, si je choisis comme lieutenant de cette petite escouade là, un officier noir. Hein, donc ça veut dire qu'un jour ou l'autre, il a été aussi lui réfugié. On ne sait pas dans quel temps, si c'est père, grand-père, mais enfin.
Vous avez dit en 2011, je pense que vous pensez toujours, ces temps-ci, il faut être con pour ne pas être pessimiste, et en même temps, il est encore plus con de se résoudre au pessimisme.
C'est pas mal.
Non, mais c'est vrai,
c'est un proverbe arménien du 12e siècle.
Non, mais vous y pensez. Il faut l'être et pas l'être, quoi.
Oui, c'est une valse, quoi. Hésitation entre les. On est forcément dans ces deux sentiments-là. Je veux dire, on peut pas baisser les bras. Je supporte pas les gens qui sont complaisants et ce qui va pas. Voilà. La complaisance avec le glauque, la complaisance avec la misère. Comme je décris toujours le monde d'une manière où tout va mal, tout le monde se suicide à la fin. C'est assez. Voilà. J'ai fait les choses d'ailleurs comme ça il y a longtemps. Je veux plus voir ça, quoi. J'ai bien envie qu'effectivement, on me montre les quelques trucs qui vont bien. Il y a des choses qui vont bien. Il se passe dans des villages, dans des cours d'immeubles, dans des associations, des choses formidables tous les jours. Je voudrais quand même que dans l'actualité en général, on me montre autant de choses qui vont bien que de choses qui vont mal, quoi. Voilà. Ça me ferait plaisir.
Vous vous êtes battu quand vous étiez jeune. Vous en pensez quoi des mouvements qu'il y a pu y avoir ces derniers mois ?
Ça me réjouit, j'aimerais que ça devienne beaucoup plus fort, j'aimerais que ça se structure mieux, j'aimerais que ça devienne plus puissant, en fait, que ça gagne du pouvoir. Mais d'ailleurs, pas forcément que ça prenne le pouvoir, mais que ça ait du pouvoir, en fait. D'ailleurs, la question de la prise du pouvoir se pose plus de la même manière. Je crois que la question d'avoir du pouvoir est importante aussi. Je veux dire, par exemple, là, je déplore qu'il n'y ait aucune manifestation, mais les gens, je sais pas, doivent être épuisés. Ils ont tellement manifesté il y a un an contre la loi El Khomri. Là, plus personne ne bouge. Bon. Je le déplore, mais je comprends peut-être aussi une certaine usure.
Faire un film, c'est bouger?
Ah, je crois. Je crois que les films, faut mettre en mouvement, vraiment un courage. Éventuellement, un courage de ceux qui sont déjà d'accord avec vous avant, hein. Ça veut pas dire qu'on fait, on ne gagne pas sur les esprits. Mais, ça fait, j'allais dire, pour utiliser ce mot, ça fait peuple, en fait. Ça fait groupe autour d'un film. Enfin, un groupe a besoin, évidemment, d'emblèmes, de drapeaux, de chansons et probablement de films. Voilà. Donc, je pense que ça les gens qui verront ce film, ça les encouragera à faire ce qu'ils font déjà. Voilà. Mais ils le font déjà. C'est parce qu'ils font ça qu'ils vont peut-être venir voir le film.
Et ça les encouragera, parce qu'on n'en a pas encore parlé, à croire encore à l'amour.
Oui, ça c'est fondamental.
Mais
c'est
ouais.
Une chose, bon. Mais sans histoire d'amour, il n'y a pas de film. On ne peut pas faire un film sans réfugié, sans histoire d'amour. Voilà, c'est mon nouveau
proverbe.
Balte. C'est mon nouveau dogme.
Non mais c'est vrai, c'est l'amour qui va frapper à la porte de certains de vos personnages, et pas forcément jeunes d'ailleurs.
Oui. Non mais c'est pour ça que c'est une question tout à fait centrale, surtout dans le film là, qui évidemment parle du temps qui passe et de ce qui change dans le monde à travers, donc c'est quelques personnages, 7 ou 8 personnages. Bien sûr que les histoires d'amour entre eux, en particulier d'ailleurs intergénérationnel.
Oui.
Illustre ça parfaitement, cette histoire du temps qui passe, des désirs qui changent.
Illustre la présidence aussi.
Illustre, en fait, aujourd'hui. J'ai été rejoint par Macron, mais j'avais écrit avant. Hein. Le film était fini avant son élection. Bon, je tiens à le dire. Mais effectivement, à front inversé comme ça, Ariane rencontre l'amour du jeune homme.
Et presque une envie de mélo ou pas, Robert Guédiguian? Presque.
Oui, mais parce que oui, j'ai
dans le beau sens du terme, hein,
oui, mais absolument, mais j'ai un faible pour ça. J'aime le spectacle aussi. Enfin, ça, on en a déjà parlé souvent, mais avec vous d'ailleurs aussi. Moi, j'aime bien que le cinéma soit du spectacle. Si c'est du spectacle, il faut qu'il y ait de l'émotion, qu'il y ait du lyrisme, qu'on soit emporté un peu à travers notre cœur, quoi, pas qu'à travers notre raison et la conscience que ça raconte ça et ça. Bien sûr.
Et l'envie de faire un cinéma populaire.
Oui. Absolument.
Ça veut dire quoi, pour le plus grand nombre?
Ça veut dire lisible au premier degré. Je ne crois pas que j'ai fait un seul film que quelqu'un puisse ne pas comprendre. Voilà.
Important.
Alors après, j'ai aussi mon histoire de complexité secrète là, qui me tient à cœur. Mais c'est-à-dire, qu'il y ait un premier degré de narration, me semble une condition pour qu'un cinéma touche beaucoup de public.
C'est ce qu'il dit Jean Renoir, entre autres.
Oui.
On vous colle pas mal de belles références ce matin, quand même.
C'est bonne matinée pour
vous. On retrouve Joachim Trier et les sorties, mais avant, on écoute Étienne Daho. Vous restez avec nous. La Villa sort mercredi prochain.
Tout est blanc. Givré, innocent, tout figé, c'est l'hiver, en été. Tout est blanc, défoncé, aveuglant, déchiré. C'est l'hiver, en été. La nuit blanche pourrait durer jusqu'à la fin de l'été. Allongé sur le sable givré, sous les flocons de l'été. La nuit pourrait durer toute l'éternité. Tout est blanc. Étouffé, faux semblant, allongé, c'est l'hiver, en été. Tout est blanc, tout givré, survivant.
On avait été ébloui par le deuxième film du Norvégien Joachim Trier, Oslo 31 août. Le revoilà avec Thelma, une jeune fille élevée par des parents très religieux, luthérien version ultra rigide, qui part faire ses études à Oslo et y découvre une attirance qui la choque et la comble en même temps pour une autre fille. Alors qu'elle est frappée parallèlement d'un mal étrange, de violentes crises, de convulsions accompagnées d'un super pouvoir dont elle découvrira plus tard l'origine. Thelma, entre chronique réaliste et surnaturelle, c'est là qu'intervient le genre, décrit ici par son auteur Joachim Trier, traduit par Harold Manning.
Herre, fjern dette fra meg, frels meg fra disse tankene. Det er jenta som har forsvunnet. Ut bare at det er det jeg vil feire. Jeg er sint på den gutten. Hva gjør du dette mot meg?
Abel thought I was scared.
Bonjour Joachim.
Bonjour
Joachim. Le genre a ses codes qu'il faut et en même temps qu'il ne faut pas respecter, non? D'ailleurs, c'est quoi le genre de ce film?
J'ai l'impression que c'est un thriller surnaturel, mais d'une façon intérieure, un thriller intérieur, sur les peurs, sur le corps, sur la nature même que nous portons. Ce n'est pas un film d'horreur où un monstre vous poursuit, où il y a, vous savez, ces effets pour vous faire sursauter de peur. C'est gore, c'est pas de sang, non, c'est pas ça, c'est pas tellement ça. C'est sur l'anxiété, sur la personne que vous êtes véritablement.
Et je reprends ma question, il y a des choses à respecter et à ne pas respecter dans un genre, dans un film de genre.
Oui, il faut respecter le suspense. Parce que ça, ça fait partie du sentiment de curiosité. Cette attente, ce suspense dans l'espace. Ce que je n'avais pas envie de respecter, c'est que souvent, dans les films de genre, les femmes sont victimisées, elles doivent être sexy, elles doivent être attrapées par des monstres ou des tueurs. Je voulais une histoire qui les mette en force à l'intérieur du genre, là où le corps est vraiment au centre, comme un objet philosophique. Et c'est par le corps que l'on comprend des choses qu'on ne comprendrait pas autrement, parce qu'il s'agit vraiment de surnaturel.
Il y a un gros tabou sur l'homosexualité dans ce film par rapport à l'éducation religieuse. Ça, c'était aussi un point capital, hein, le fait qu'elle soit attirée par une autre femme.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on a commencé à partir de l'aspect religieux, qui est vraiment quelque chose qui est très catholique, mais qui est tout à fait commun à tout le monde, pas seulement en Norvège. Ça existe dans beaucoup de religions, pas seulement le christianisme. Cette attitude contre les LGBT, contre les femmes aussi, c'est quelque chose qui existe vraiment et qui parle vraiment aux jeunes et qui peuvent voir la violence que c'est que d'être rejeté, que d'être gay, par exemple. J'ai trouvé que c'était très important en tant comme thème, et ça m'a mis en colère. Ce manque de respect, ce manque de compréhension, ce manque de liberté qu'on leur refuse. Donc oui, j'ai beaucoup de jeunes qui m'ont soutenu, et puis en Norvège, c'est un film qui a vraiment été vraiment compris et vraiment été bien reçu dans beaucoup de communautés. Donc je suis content d'avoir fait un film sur ce sujet maintenant.
Ses angoisses se matérialisent sur son corps. La médecine n'a pas de remède. Et pourtant, ces crises existent pour de vrai. Parce que tout est vrai dans ce film, en fait.
Je ne sais pas si il y a des choses qui, quand même, dépassent la réalité. Ça devient une histoire quand même fantastique. Mais enfin bon, on a essayé d'explorer ce que c'est que l'épilepsie. Et on a compris que 30% des crises d'épilepsie sont des crises complètement psychogéniques. Et il s'agit d'un cas vraiment là où le corps devient la langue pour une situation psychologique, la langue d'expression. Pour une jeune génération qui se bat contre les représentations, il faut avoir un corps parfait, il faut être idéalisé. Ils ont cette image qu'ils doivent donner à eux-mêmes et aux autres. Et on perd complètement le contrôle sur son corps. Et ça, c'est quelque chose qui est pourtant réel, qui est basé sur la réalité. Donc il y a beaucoup de cas de gens où ça se passe comme ça. De plus en plus, les gens passent dans cet état mental qui est insupportable pour eux, et c'est le corps qui s'exprime.
Ensuite, il a fallu faire plonger votre actrice dans un état second. Et là, il y a presque une ligne à pas dépasser. Il faut être, faut bien le prouver à l'image, mais il faut pas non plus détruire une actrice, une jeune femme.
Absolument.
Eileen Harbour, who plays Thelma.
Eileen Harbour, qui joue Thelma, est une actrice très courageuse. Elle était très impliquée. Elle voulait vraiment faire toutes les cascades, sous l'eau notamment. On l'a fait ça ensemble d'ailleurs, parce que moi aussi je voulais vraiment la soutenir et être avec elle. et de me rentrer dans ces thérapies qui s'appellent psychothérapie, où on arrive finalement à dépasser les tremblements du corps. On est dans une culture où il ne faut pas trembler, il ne faut pas avoir le corps qui tremble parce que ça donne l'impression que l'on est faible. Alors que les animaux, les enfants tremblent quand ils ont peur. Mais quand on est adulte, il ne faut pas. Et donc, il y a une thérapie qui permet de se libérer de ça. Et pour des raisons d'esthétique, il fallait que l'on soit réaliste. Et donc, on a entraîné notre comédienne pour qu'elle puisse avoir l'air d'avoir des crises d'épilepsie. Elle a été très courageuse. Elle a vraiment contrôlé les choses. Et ça a été une très belle collaboration entre nous. On est restés très amis. Vraiment, c'est quelque chose qu'on a vraiment fait ensemble.
Vous l'avez testé aussi, ça ?
Ah oui, tout à fait. C'est remarquable. J'avais jamais rien fait de quoi que ce soit qui ressemblait à ça. Ça s'appelle TRI, pour se libérer des traumatismes. C'est ce que expérimentent des soldats, des gens qui ont des séquelles post-traumatiques. Et c'est pas tellement dans la technique de comment on y arrive, mais en rentrant dans le processus, je me suis rendu compte que c'était vraiment quelque chose, une façon fantastique pour se libérer de ces tensions. Également, je me suis rendu compte que c'est souvent ce que font les chanteurs d'opéra avant d'entrer sur scène pour complètement se libérer les tensions de tout le corps. C'est étrange comme nouvelle technique. Ce sont des psychiatres et des docteurs qui ont développé. Mais ce que j'ai appris aussi, c'est que quand on passe par un grand trauma et qu'on commence à trembler, il ne faut pas s'empêcher de trembler. Quand vous avez un accident de voiture, si jamais vous survivez, il ne faut pas s'empêcher de trembler. Il faut trembler pendant même 15 minutes. C'est quelque chose qui est très sain. Il ne faut pas empêcher le trauma de traverser votre corps. C'est ce que j'ai appris. Mais je l'ai appris grâce à ce film.
Thelma de Joachim Trier est sorti depuis mercredi. Les autres sorties, Laurent, on va commencer par un film que vous aimez beaucoup qui s'appelle Argent Amer, le nouveau documentaire du chinois, le 12e en 13 ans, Wang Bing, qui a suivi des garçons et des filles dans les ateliers de confection de la banlieue de Shanghai, une migration forcée pour ces ruraux et un contre-champ assez terrible de la Chine, cadence infernale, précarité pour ces victimes du capitalisme sauvage, un immense portrait de héros du quotidien au-delà du réel.
Oui, il y a un de ces jeunes hommes qui, à un moment, qui dit, pour résumer sa vie, de 7h à minuit, tu bosses, tu manges, tu dors. C'est une perspective qui n'est pas forcément extrêmement réjouissante. Et c'est d'autant plus intéressant, cette trilogie-là, tu bosses, tu manges, tu dors, que Wang Bing insiste, avec beaucoup, je trouve, d'acuité et un grand sens aussi de la cinématographie, sur le dernier terme, sur le « tu dors ». Il filme des gens qui sont abrutis de fatigue, qui sont dans un épuisement physique et psychique aussi, du coup, permanent. Il y a notamment une scène, pas d'ouverture, mais une scène très rapidement dans le film, où ils filment un train entier, où les gens dorment, où ils sont totalement harassés de fatigue, et ils dorment les uns sur les autres. On a l'impression d'une scène presque de fiction, c'est-à-dire comme si tout d'un coup il y avait un magicien qui avait dit à tout le monde « dormez, je le veux ». Et c'est saisissant d'intensité, et cette façon qu'il a de nous montrer, il n'y a pas que ça évidemment, mais des gens qui dorment presque, on pourrait dire c'est la récurrence du film, et je trouve que c'est une image, Robert Guillon, je suis sûr qu'elle vous parle, oui, qui est une image incroyable, c'est-à-dire qu'effectivement, qu'est-ce que c'est que ces gens, et ben, ce sont des gens usés par le capitalisme. Voilà, c'est ça que ça veut dire, par ce capitalisme chinois débridé.
Même plus que me parler, c'est je présidais Horizonti à Venise l'année dernière, on lui a donné le prix.
Oui.
Donc j'adore ce film. Bon,
voilà.
Il a eu à l'unanimité d'ailleurs, je veux dire. Ça
très,
fait,
très, très,
il a
très.
Pas eu...
Très grand documentaire.
Moins de discussion, c'est très bon.
Argent amer.
On fait le grand écart avec Marvin ou La Belle Éducation de Anne Fontaine. Le point de départ, c'est le roman. Pour en finir avec Eddie Bellegueule d'Edouard Louis qui n'a pas voulu être crédité au générique. Mais point de départ seulement. Le protagoniste d'Anne Fontaine, c'est Marvin Bijou, originaire des Vosges. Marvin et sa mauvaise éducation, père tyrannique, mère résignée, frère brutal, souffre douleur à l'école. Marvin négué et rejeté pour cela. À Paris, il va devenir Martin Clément et figure figure de la scène théâtrale. C'est l'histoire d'une métamorphose. Il faut oublier le livre, remarquable par parenthèse. Le film, c'est autre chose. Il y a plein de raisons aussi de ne pas l'aimer, ce film, notamment pour la description très chargée de l'enfance et des clichés liés à la vie culturelle parisienne. C'est vrai, sans compter le montage alternant passé et présent, pas toujours harmonieux. Et pourtant, il se dégage un beau portrait d'homme qui va s'affranchir. Un portrait plein de nuances et très émouvant, grâce notamment à des scènes clés, par exemple la grande Catherine Mouchet, celle qui va découvrir ses talents, par exemple avec son Pygmalion Vincent McCain et son compagnon dans le film, Sharif Andoura, sacré acteur. Ou par exemple encore au jeu très subtil de Charles Berling, sans compter Marvin, le lumineux petit acteur, jeune acteur Poirier, et son double adulte Finnegan Oldfield. Finalement, c'est drôle d'aimer un film qu'on n'aimerait pas a priori et d'y redécouvrir la grande directrice d'acteurs qu'est Anne Fontaine. Ça s'appelle Marvin. Donc, western, Laurent, de Valeska Grisbach, c'est une cinéaste allemande. Ce Far West est en Bulgarie et met face à face des ouvriers détachés allemands et les habitants d'un village autour d'un chantier. Au centre, un cow-boy solitaire, Ménard, l'ouvrier allemand, un personnage ambigu. Et derrière ce western, une métaphore sur la peur de l'inconnu et ce qu'est l'Europe devenue.
Magnifique film, troisième long métrage de cette réalisatrice, produite en l'occurrence par Marana 2, mais je préfère le cinéma de cette réalisatrice que celui de sa productrice, mais c'est un autre débat et que je n'entamerai pas ici.
Non, merci.
Non, évidemment. Décidément, la classe ouvrière et prolétaire est plutôt enfin très présente cette semaine, et bah tant mieux, après tout, parce qu'on peut pas dire qu'elle soit omniprésente. Donc quand il y a des nouvelles comme ça, cinématographiques, qui nous sont données, c'est très bien. Effectivement, vous le disiez, c'est l'histoire de travailleurs allemands déplacés en Bulgarie, c'est-à-dire dans un autre pays européen, mais dont le moins qu'on puisse dire, et qui n'est pas sur la même longueur d'onde, en tous les cas économique, que l'Allemagne. Et c'est la confrontation des deux. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est pas du tout manichéen, c'est-à-dire que ce western en question, c'est effectivement, il est question de grands espaces, il est question d'étrangers, vous le disiez, de la conquête, de la différence entre la nature et la civilisation. Tout ça, ce sont des notions qui existent dans le film. Et en même temps, il n'y a pas la volonté de montrer ce qui serait un affrontement trop facile. Le personnage central, ce héros dont vous parliez, effectivement, est en train de faire le lien entre les Allemands et les Bulgares, de faire en sorte d'aller vers les autres, de faire en sorte que l'étranger ne le soit beaucoup moins. Et le film est littéralement porté, non seulement par un vrai sens de la mise en scène, mais par un casting de non-professionnels étourdissant. C'est-à-dire cette espèce de compagnie des hommes, il y a effectivement presque que des hommes, c'est un environnement masculin, mais il y a des acteurs, ou des non-acteurs plus précisément, qui sont absolument formidables et qui portent réellement le film, qui s'appelle, je le répète, Western. C'est un des films à voir cette semaine, sans aucun doute.
Le pire et le meilleur du cinéma hongrois. Le meilleur, c'était Corps et âme, dit Nico.
Ah,
et il dit toujours à l'affiche, près de chez vous, cherchez bien. Et le pire, ou presque, c'est cette Lune de Jupiter, de Cornel Mundrusco. Là où Corps et âme était poétique et passé par le rêve pour évoquer la naissance d'un amour, celui-là file une métaphore très lourde. La résurrection et la lévitation d'un jeune migrant exploité par un médecin cupide pour traiter de la mauvaise conscience et du cynisme des Européens face à ces vagues migratoires. Un pamphlet politique, doublé, il faut le reconnaître, Laurent, d'une performance visuelle, mais ce n'est pas suffisant.
Ah oui, non, si j'aimais les jeux de mots, ce que je déteste, on pourrait dire que c'est un film, il faut l'éviter, mais je ne la ferai pas, vous l'avez bien entendu. Non, c'est d'une lourdeur saisissante, enfin, ce jeune immigré, alors ça rejoint des thématiques qu'on vient d'aborder, mais enfin, qui effectivement s'envole, quoi, il prend de la hauteur, mais ça va, au bout d'un moment, au bout de 20 minutes, on a compris. Et en plus, il y a une métaphore très lourde sur un médecin qui ne l'aide pas, mais au contraire, qui essaye d'en tirer profit. Très, très franchement, c'est d'une lourdeur métaphorique beaucoup trop forte. Oui, alors la cinématographie, d'accord, mais derrière, il y a des grues, tout ça, qui élèvent le personnage, c'est pas très intéressant.
Franchement. Allez voir Corps et âme. La Éducation del Rey de Santiago Estevez, premier film de l'ancien monteur de Pablo Trapero, un film inspiré d'une mini-série qu'il a réalisée. L'histoire, le jeune Reynaldo participe à un cambriolage qui tourne mal, s'enfuit, tombe dans le jardin d'un vieux couple, et contre toute attente, le propriétaire ne le dénonce pas à la police, mais lui propose un marché, une relation de confiance fragile, instaure entre lui et son protecteur. C'est intéressant comme thème, ça.
Mais oui, c'est très intéressant. Et l'origine dont vous parliez, c'est-à-dire la mini-série, on la sent dans, finalement, ce qui fait, à mon sens, le prix, le poids, la réussite du film, c'est cette espèce de diversité qu'il y a forcément dans les séries, et qui est reprise ici, c'est-à-dire qu'on a à la fois un récit, un polar, tout à fait assez classique, conventionnel, presque, mais bien mené, et puis, à côté, comme souvent dans les séries, donc effectivement, des relations, presque père-fils. Ça n'est pas un père avec son fils, mais c'est quelqu'un qui ont l'âge d'être un père et un fils chacun pour l'autre. Et donc, cette façon très belle de montrer une relation intime qui, effectivement, n'est pas donnée au début, mais qui va se construire progressivement. Et c'est le mélange de tout ça qui fait que ce premier long métrage est tout à fait intéressant. Je pense qu'on entendra parler de ce metteur en scène. Il y a une vraie singularité chez lui.
Ice Mother, du réalisateur tchèque Bohdan Slama. Un portrait de femme sacrificielle. Enfin, au début, Anna, veuve de 65 ans, au service, vraiment, on peut le dire, de ses enfants, deux adultes odieux et leur femme très égoïste. Et cette vie laborieuse va changer lorsque Anna va rencontrer ce groupe de joyeux nageurs retraités qui vont l'initier à la natation dans l'eau froide. Et pour l'un d'entre eux, à l'amour tardif. Une reconquête de la liberté, un film charmant. Un petit peu prévisible et formaté, mais dominé par une actrice très étonnante. Elle s'appelle Susanna Kronerova.
Oui, je suis d'accord avec cette vision des choses. Voilà.
D'accord.
Balancée, on va dire, mais c'est vrai.
L'œil du cyclone, premier film du Burkinabé Sékou Traoré. Dans un pays d'Afrique, on ne dit pas lequel, une jeune avocate se voit proposer de défendre un dangereux rebelle accusé de crimes de guerre. Alors que son instinct la pousse à refuser, elle va tout tenter pour le sauver au nom d'un idéal de justice, quitte à mettre en danger sa carrière et sa vie. Mais peut-on réellement sauver un ex-enfant soldat? Un film inspiré d'une pièce qui nous fait découvrir la procédure judiciaire à l'africaine, la corruption d'un système et son univers carcéral. Et c'est probant.
Et c'est glaçant, surtout c'est glaçant parce qu'effectivement, alors c'est un film de procès, ça en a les avantages et les inconvénients, les limites et les qualités. C'est plutôt bien fait, même cinématographiquement. Il y a cette figure centrale d'enfant soldat qui est absolument terrifiante. C'est-à-dire, c'est un enfant soldat devenu adulte. Hein. C'est-à-dire un enfant soldat qui n'a pas été sorti du système et qu'on n'a pas essayé de transformer en autre chose qu'une bête à tuer. Et ça, ce destin-là, il est effectivement d'autant plus glaçant, je vous le disais, d'autant plus effrayant que ça n'est absolument pas un cas à part et qu'on sait bien que le cas des enfants soldats en Afrique notamment est une vraie, vraie réalité. Le film donne froid dans le dos.
Le brio d'Ivan Attal, l'histoire de Nella Salas et Camélia Jordana, grandit à Créteil, rêve de devenir avocate, s'inscrit à la fac de droit d'Assas. Elle se confronte dès le premier jour à Pierre Mazars et Daniel Auteuil, professeur connu pour ses provocations et ses dérapages. Et pour se racheter une conduite, ce dernier accepte de préparer Nella au prestigieux concours d'éloquence. S'engage alors une battle entre rhétorique et verve des quartiers. Plutôt bien menée, Attal sait manipuler les ficelles de la comédie et transforme les pièges d'un tel sujet en pirouette plutôt maligne, le tout dans un propos dont l'issue est facilement décelable. Voilà, c'est ce qu'on peut dire sur le brio.
C'est l'occasion de dire peut-être que le DVD du beau documentaire qu'on a adoré, qui s'appelle La Voix Haute, vient de sortir. Voilà.
Et vous n'avez pas vu ça, Robert Guédidian, sur le concours d'éloquence à Saint-Denis? C'est très, très beau.
On m'a dit que c'est très beau. Oui.
Et on termine par un film pour les enfants à partir de 3 ans. C'est Ernest et Célestine en hiver, les nouvelles aventure de l'ours au cœur tendre, de mais la petite souris espiègle, un programme en 4 épisodes, des fables morales et mignonnes, Laurent.
4 courts-métrages que même les vieux comme moi peuvent aller voir avec bonheur, parce que ça participe au renouveau de la grande animation française, c'est d'une réussite visuelle absolument totale, et en plus on ne prend pas les enfants pour les imbéciles, ce qui est toujours mieux.
Et maintenant est venue l'heure des cadeaux.
Le temps des cadeaux, absolument. Robert Guédidian, vous avez fait un jour un film que moi j'aime, pour lequel j'ai beaucoup de tendresse, qui s'appelle À l'attaque. Oui. Or, ce film, il était inspiré d'un autre film français qui s'appelle La fête à Henriette, de Julien Duvivier, et que les éditions Pathé viennent de ressortir en version restaurée. J'adore. C'est un merveilleux film, donc on est content de vous l'offrir et de vous rappeler à la fois votre film et ce beau film de Duvivier.
Et vous l'évoquiez dans le générique, ça, de...
Non, je l'ai dit dans toutes les interviews.
Voilà,
dans
les autres presse, c'est tout ça. Ouais, c'était pas caché. C'est l'histoire de deux scénaristes. Hein.
Voilà, c'est surtout ça que je reprends. Hein. C'est deux scénaristes en train d'écrire une histoire.
Bien sûr.
Et puis, un documentaire. Vous êtes sensible au documentaire. Je sais pas si vous l'avez vu. Retour à Forbach de Régis Sauder.
C'est un ami, par ailleurs, je le connais, il vit à Marseille, vous savez.
Exactement, il vit à Marseille. Doc 66, c'est l'éditeur, et c'est un très beau documentaire sur ces villes qui sont en train de mourir petitement en France à petit feu.
J'ai regretté quand il est sorti de ne pas l'avoir vu, bien
sûr. Bon, et bien alors voilà.
Et c'est fou là, quand même, le nombre de documentaires qui sortent là, depuis quelques temps.
Oui, il y en a de plus en plus, mais il ne marche pas beaucoup. C'est-à-dire, c'est souvent en termes de production et moyen de les faire, il faut dire. Hein. C'est-à-dire, quand la télé refuse un documentaire,
C'est la faute de la télé.
On passe par, absolument. Exactement. On passe par, on essaie d'avoir, si le documentaire a beaucoup de qualité, une avance sur recette au cinéma, puisque ça existe. Et hop, on est un peu contraint, quoi. Voilà. C'est la nécessité économique de faire exister qui le fait passer au cinéma. Alors que, s'il passait à la télé à une heure de grande écoute, il y aurait beaucoup plus de gens qui le verraient, quand même, disons-le, quoi.
Il y a des chaînes publiques, pourtant, dont ça serait le rôle, non?
Les chaînes publiques ne font pas bien leur travail.
Ah bon, d'accord.
Mais c'est notre débat. On peut refaire. On peut en parler longtemps.
Vous, c'est pas un doc, c'est une fiction. Ça s'appelle La Ville. Là.
Allez voir La Villa.
Et ça sort mercredi prochain. Merci beaucoup, Robert Guédiguian.
Merci à vous.
Et ben, le générique, cette fois-ci, va être en norvégien, figurez-vous.
Chic.
Avec Joachim Trier.
Dette programmet var inspirert av film. Det var filmet i lyd. Det radio. Titelmusikken var skrevet av Sporto Cantez. Sangene har blitt valgt av Muriel Perez. Martin Meissonier forberedte programmet. David Jukubovies regisserte. Christine Masson og Laurent Delmas produserte og presenterte. Og jeg, Joachim Trier, fikk lov å være med.